BFM Politique en compagnie d'Edwige Chevrillon pour BFM Business, Louis Osalter pour Marianne, notre première invitée, et donc vice-président du Rassemblement National, Jordan Bardella, vice-président pour l'instant, hein, vous serez président de votre parti dans quelques semaines au début de la campagne présidentielle, nous aurons l'occasion d'y revenir bien évidemment. Commençons avec l'actualité immédiate, celle dont nous parlons, sur laquelle nous écrivons depuis des jours, l'Afghanistan. Le dernier avion français qui emmène des réfugiés afghans a décollé de Doha ce matin. Il va atterrir au milieu de l'après-midi en France, avec notamment l'ambassadeur David Martinon à son bord. Il y a tout de même, Jordan Bardella, des milliers de personnes qui veulent fuir le régime taliban, qui restent bloquées à Kaboul. Que fait-on pour eux ?
D'abord, je pense que ce que nous vivons en Afghanistan est probablement la fin d'une époque, la fin d'un cycle où les États-Unis ont joué pendant des décennies les gendarmes du monde, sont allés avec la volonté d'aller imposer la démocratie, les droits de l'homme, parfois à des civilisations, des peuples, pour qui ce principe, qui est un principe très occidental, leur était totalement étranger. On a commis beaucoup d'erreurs dans les ingérences que nous avons conduites au Moyen-Orient, en Afrique. Je pense à la déstabilisation de la Libye, je pense à la tentative de déstabilisation de la Syrie.
Quand vous dites « on, c'est la France », ce sont les Occidentaux.
C'est une responsabilité collective, ce sont les gouvernements de l'époque. C'est le gouvernement de Nicolas Sarkozy qui a détruit un État qui n'était peut-être pas une démocratie au sens où nous l'entendons en France, au sens où nous sommes attachés à ce principe, mais qui était, en tout état de cause, le pays qui avait le plus haut niveau de vie d'Afrique, le plus haut indice de développement humain, et qui protégeait en tout cas les minorités et faisait rempart contre les fondamentalistes islamistes. On a essayé de faire la même erreur en Syrie.
Vous le savez très bien, il y a beaucoup de gens qui étaient des victimes de ce régime qui ne partageraient pas votre
opinion. Oui, mais vous savez...
Et tentative de déstabilisation en Syrie, c'est quand même un peu étonnant.
Il n'y a jamais de régime... je veux dire, la diplomatie et la géopolitique, c'est toujours la politique du moins pire. C'est vrai en Libye, c'est vrai en Syrie. Or, aujourd'hui, en Afghanistan, les erreurs diplomatiques qui ont été commises, les erreurs géopolitiques qui ont été commises par les États-Unis vont amener, en tout cas dans ce retrait, à probablement une nouvelle autoroute migratoire à destination de l'Europe et notamment à destination de la France.
Nous allons revenir sur ce sujet.
Pour qu'on soit
justement
extrêmement clair et pour vous
parler de...
Je pense que la France, et pour vous répondre de manière la plus claire qui soit, la France doit, je crois, protéger les gens qui ont aidé directement l'armée française, et ça se compte probablement sur les doigts d'une main. Les gens qui
les
ont été traducteurs, les gens qui ont investi, qui ont travaillé avec les services de renseignement français et qui ont collaboré avec l'armée française. Mais c'est tout.
Vous pensez qu'il y a 5 personnes
porte,
qui ont maximum...
Sur le doigt d'une main, c'est une façon de parler. Ouais. Il y en a probablement quelques dizaines. Ni vous ni moi le savez, les services de renseignement sont probablement plus au fait de cela.
Mais ils disent qu'on est plutôt sur des milliers de personnes que les doigts
d'une main. Je dis juste que... Mais on n'en sait rien. Enfin, il y a quelques jours, vos confrères de Valeurs Actuelles ont révélé les premiers que parmi les centaines de migrants qui ont été, je n'aime pas le terme de rapatriés puisque ça aurait valeur de rapatriement dans son pays d'origine, qu'on a fait venir sur le territoire français. Parmi ces centaines de personnes qui sont venues, cinq ont été placées dès leur arrivée en France, dès leur arrivée à la frontière française, sous la surveillance du renseignement pour risque terroriste. Je dis juste une chose. La France n'a pas vocation à être la patrie de tout le monde, au risque peut-être demain de n'être la patrie de plus personne.
Nous reviendrons sur ces questions d'immigration, Jordan Bardella.
L'aspect diplomatique,
c'est important, vous l'avez cité vous-même. Dans le JDD ce matin, Emmanuel Macron demande la mise en place d'une zone protégée au sein de Kaboul, qui sera en fait un lieu de transition pour aider ceux qui veulent fuir. Pour ça, il faut parler avec les talibans, le régime taliban, qui sont aujourd'hui les maîtres de Kaboul. Est-ce qu'il faut leur parler et qu'est-ce qu'on leur dit ?
Les renseignements français parlent depuis des années avec les talibans. Je veux dire, c'est un mensonge d'expliquer qu'il n'y a aucun contact avec les représentants des talibans. Moi, je crois dans le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à se choisir les représentants qu'ils souhaitent. Mais je dis juste qu'il y a en Afghanistan, d'après un centre de recherche américain, le Pew Research Center, qui a fait une grande étude sur la sociologie afghane, 99% du peuple afghan qui souhaite vivre sous l'application de la charia et sous le règne de la loi islamique.
Là, ils ont pris le pouvoir par les armes, vous êtes au courant, les talibans.
Ils ont pris le pouvoir par les armes, avec quand même une très faible résistance de la part de l'armée afghane. Probablement que les millions d'argent qui ont été injectés depuis des années par les États-Unis ont servi à abonder la corruption. Enfin, il y a un certain nombre de témoignages de journalistes qui ont dit que l'argent devait servir à payer des écoles qui n'ont jamais vu le jour. Donc bref, cet investissement américain s'est fait dans la corruption la plus totale. Mais je dis juste qu'une grande partie du peuple afghan, 99% du peuple afghan, souhaite vivre sous le régime et sous la loi islamique, sous le règne de la charia. Donc, est-ce que pour autant, il faut donc accueillir des gens avec qui nous ne partageons rien, qui sont civilisationnellement opposés à tout ce qu'est le peuple français ? Eh bien, je ne crois pas. Maintenant, pour vous répondre sur la question
diplomatique. Les gens dont la vie est menacée, Jordan Bardella. Les gens qui sont potentiellement torturer, enfermer les femmes qui ne, effectivement, qui n'ont plus de droits.
Je suis sensible à la cause des femmes. Je ne vais pas vous dire le contraire. L'Afghanistan est le pays qui a accueilli le droit de vote aux femmes 25 ans avant la France, au début du XXe siècle. Les femmes qui ont acquis un certain nombre de droits, la possibilité de vivre normalement, et je mets des guillemets, à la fin du régime taliban, au début des années 2000, vont voir ces droits remis en cause et remis en question. Évidemment qu'on est tous sensibles au sort des femmes. Mais comment reconnaître un régime ? Comment reconnaître des dirigeants politiques ? Parce que ce sont des dirigeants politiques, au-delà d'être des combattants, ils souhaitent être des dirigeants politiques qui préfèrent voir une femme exécutée plutôt que de la voir travailler ou de la voir se balader seule dans les rues. Donc j'ai un vrai problème diplomatique avec le fait de reconnaître des gens dont le ministre des Affaires étrangères a été détenu à Guantanamo pour sa participation à des opérations
juste avant de donner la parole à Louis Alter, et parce que je veux dire la vérité, je ne comprends pas clairement ce que vous nous dites. Donc, on fait quoi ? On leur parle ou on leur parle pas ? Pour l'instant, ils ne sont pas reconnus. Hein. La France ne la reconnaît pas, les États-Unis ne la reconnaissent pas.
Qu'il y ait des contacts à l'aéroport à l'extrême frontière, c'est-à-dire à l'aéroport de Kaboul, pour organiser l'évacuation du personnel diplomatique, bien sûr. Mais faut-il pour cela reconnaître le régime des talibans qui cherche aujourd'hui une légitimation internationale immédiate et une respectabilité ? Je ne le crois pas.
Ce n'est pas la position de la France, hein, par ailleurs, pour l'instant.
En tout cas, ce n'est pas la position de la France. En tout cas, c'est la position de M. Le Drian, qui est bien naïf sur cette question.
Vous avez entendu le ministre des Affaires étrangères dire que la France allait reconnaître le régime taliban.
Je l'ai entendu nous parler d'un gouvernement taliban inclusif. Il devait démontrer que les talibans étaient devenus un gouvernement inclusif. Il n'y a pas d'islamisme inclusif. Il y a un seul et même islamisme, qui est une idéologie que nous combattons. Et quand je vois, effectivement, les conséquences qu'ont eu l'ouverture de filières migratoires avec la Libye, avec la Syrie, y compris avec l'Afghanistan, sur le territoire français depuis 10 ans...
Justement.
Depuis 10 ans, eh bien, je crois qu'il y a un principe de précaution qui s'impose, qui est celui, d'ailleurs, qui est la position de Sébastien Kurz, le chancelier autrichien, de ne pas accueillir de migrants et de ne pas ouvrir une nouvelle route migratoire avec l'Afghanistan.
Alors justement, parce que tout le monde en Afghanistan ne veut pas vivre sous le régime taliban, l'ONU s'attend à ce que des centaines de milliers d'Afghans cherchent à fuir leur propre pays. Est-ce que, au-delà de ceux qui ont aidé l'armée française, est-ce que la France doit accorder l'asile à certains de ces réfugiés-là et sur quels critères pour vous ?
Depuis maintenant 10 ans, nous avons eu en France des exemples dramatiques de terroristes qui ont utilisé ces filières migratoires pour venir dans notre pays commettre des attentats. Le Bataclan, en novembre 2015, une grande partie des terroristes du Bataclan étaient des islamistes qui avaient utilisé les filières migratoires et notamment les filières syriennes. Depuis un an, la totalité, tous les 4 attentats que nous avons commis depuis un an, l'ont été par des migrants qui venaient d'arriver sur le territoire français. L'attaque en septembre dernier contre les anciens locaux de Charlie Hebdo a été commise par un Pakistanais qui n'avait rien à faire sur notre sol. Samuel Paty a été assassiné par un Tchétchène qui n'avait rien à faire sur notre sol. Que ce soit ensuite l'attentat contre la cathédrale de Nice ou à Rambouillet contre Stéphanie Monfermé, contre un commissariat, l'ont été par un Tunisien qui n'avait rien à faire sur notre sol. Est-ce qu'à un moment donné, politiquement, le gouvernement va regarder derrière nous, va regarder l'histoire pour prendre ses positions.
Donc pour répondre à la question,
pour répondre à la question, la question est non. Pas de nouvelle autoroute migratoire. Non. Parce que je crois que parmi les... Il y a peut-être des gens qui viendront de bonne foi, mais avec qui, en tout cas, nous ne partageons pas la même manière de vivre, la même culture, la même civilisation. Et il y a, et je le dis, parmi les centaines et les centaines d'Afghans que va accueillir le gouvernement, les statistiques de l'insécurité et de l'islamisme de demain. Nous avons connu beaucoup trop de drames dans notre pays pour nous permettre cet angélisme.
Jordan Bardella, vous êtes député européen. Est-ce qu'il faudrait que l'Europe ait une position commune, notamment en termes de quotas, peut-être en termes d'accueil, qui ait eu la même position pour éviter ce qui s'est passé en 2015, souvenez-vous justement, avec de nombreux réfugiés syriens. On sait qu'Angela Merkel avait ouvert les frontières allemandes et ça avait compliqué le jeu. Est-ce que vous vous dites que c'est au niveau européen qu'on doit avoir une position ?
Ça va être compliqué dans la mesure où M. Macron souhaite accueillir des centaines de réfugiés, encore, aujourd'hui, puisque malgré les faits de communication qui consistent à dire on ne met plus en place d'évacuation depuis l'aéroport de Kaboul, on a appris par vos confrères parisiens que Emmanuel Macron, d'ailleurs, l'a avoué lui-même en sa conférence de presse, des centaines de laissez-passer sont délivrés à des Afghans qui pourront les utiliser ultérieurement. Mais qui nous garantit ? Est-ce que le chef de l'État, est-ce que le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, nous garantissent que parmi les gens à qui on remet des laissés-passer, il n'y a pas des infiltrés de Daesh, il n'y a pas des talibans qui veulent venir sur le territoire français pour commettre des attentats.
Mais il y a peut-être encore aussi des gens qui sont en danger.
5 personnes. Oui, ouais. Mais madame, oui. Eh bien, je préfère ce principe de précaution. Parce que vous voyez, parmi
donc,
les.
Ça veut dire, pardonnez-moi, mais là, alors, nous avons Emmanuel Macron, le président, ce matin,
qui
Jordan
ont été
Bardella.
Placés sous surveillance pour risque
Monsieur
terroriste.
Bardella, le droit d'asile, c'est constitutionnel en France. C'est constitutionnel. Ça veut dire que vous, c'est une valeur que vous souhaitez réécrire. Ça veut dire que cette valeur constitutionnelle, vous ne souhaitez plus qu'elle soit applicable chez nous.
Je pense que la France doit maintenir dans ses textes le droit d'asile. Mais je pense qu'il faut en réformer la méthode. Et je pense que nous devons organiser, et c'est peut-être là le rôle de l'Europe, mais permettez-moi, aujourd'hui l'Europe et notamment Frontex, qui est l'agence de garde-côte européenne, qui est censée, de manière opérationnelle, s'occuper de la politique migratoire, est plus une hôtesse d'accueil pour migrants qu'un moyen de protéger les frontières extérieures de l'UE. Donc il faut ce double filtrage, aux frontières extérieures de l'UE et à l'intérieur même des pays européens. C'est pour ça que nous souhaitons revenir sur l'espace Schengen. Il faut réformer le droit d'asile. Nous souhaitons notamment que le droit d'asile soit traité depuis l'étranger et dans les pays de départ. Pas une seule demande d'asile ne doit être traitée à partir du moment où elle est demandée sur le territoire français. Parce qu'aujourd'hui, le droit d'asile, il y a eu 130 000 demandes d'asile l'an dernier, près de 2/3 d'entre elles ont été déboutées, et on sait qu'il y a seulement 15% des gens qui sont expulsés vers leur pays. Donc, il faut mettre en place aujourd'hui avec les Nations Unies des camps sécurisés dans les pays frontaliers, notamment de l'Afghanistan. Ça, c'est le rôle de l'Union européenne et c'est le rôle des Nations Unies, mais certainement pas sur le territoire national. C'est ce qu'a fait le Danemark avec quand même une efficacité sur sa politique migratoire.
Puisqu'on parle d'immigration plus généralement, vous avez tweeté mercredi « Les données de l'INSEE nous confirment ce que nous disons depuis longtemps. L'immigration entraîne un changement de population inédit dans notre histoire par sa rapidité et son ampleur. Il nous reste peu de temps pour choisir le visage qu'aura demain la France. » Quand vous parlez de visage de la France, vous parlez de couleur de peau, d'ethnie, de religion, de quoi vous parlez exactement ?
Je parle de l'importation sur le territoire français depuis maintenant 30 ans. Importation massive, pas au cas par cas, comme ça a été fait il y a quelques années, au début de la Ve République, mais de culture, de mode de vie étrangères. Moi, je n'ai pas besoin, si vous voulez, d'avoir les données de l'INSEE dans mon département où j'ai grandi, la Seine-Saint-Denis. Mais regardez le département de la Seine-Saint-Denis aujourd'hui, où un rapport parlementaire nous explique que jusqu'à 25% de la population pourrait être présente de manière clandestine. Et des gens qui étaient là avant, qui ne reconnaissent plus leur quartier, qui ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi. Donc, quand je vois effectivement les LR aujourd'hui, les Républicains, nous dire on a un problème avec l'immigration, on a un basculement démographique, mais ça fait 40 ans que nous disons cela. Oui, il y a un basculement démographique qui pourrait faire craindre que la France ne change de visage dans quelques années. Et c'est déjà en train d'arriver. Parce que moi, je me souviens...
Vous êtes dans la théorie du grand basculement.
Mais je n'aime pas ce mot de grand emplacement parce que je trouve qu'il n'est pas clair. Mmh. C'est un slogan très intellectuel, mais il pointe une réalité qui est juste. Qui est juste. Enfin, je veux dire, allez vous balader dans tous les quartiers où moi j'ai grandi, en Seine-Saint-Denis, à Bobigny, à Drancy.
Mais changement de visage, et vous parlez de couleur de peau, du coup.
Je parle de culture,
de religion.
Je parle de l'implantation sur notre sol d'une civilisation avec qui nous ne partageons rien. On voit qu'il y a aujourd'hui des gens qui viennent dans notre pays pour la changer. Lorsque ma famille est arrivée d'Italie dans les années 60,
oui,
elle n'est pas arrivée en France pour la changer.
C'est l'histoire des pays, vous-même. Voilà, histoire italienne, histoire
mais
polonaise.
Mais parce qu'ils aimaient
histoire...
la France. Mais parce qu'ils aimaient notre pays. Parce qu'ils aimaient notre pays. Parce qu'ils aimaient notre... Non, en Italie, ils ne fuyaient pas la guerre. Et sur ce principe-là, madame, il y a une soixantaine de pays en guerre dans le monde. Mmh. Si la France se met à devenir la patrie de tout le monde, alors elle n'est plus la patrie de personne. Mais moi, j'ai un problème avec les gens qui viennent aujourd'hui dans notre pays pour le changer, pour en changer la langue, pour en changer la culture, pour imposer le burkini sur les plages, pour imposer le voile à des fillettes de 5, 6, 10 ans, pour imposer des horaires séparés dans les piscines, pour imposer des régimes confessionnels dans les cantines. Cela me pose problème et je ne le souhaite pas. Et oui, la démographie, madame, la démographie va constituer pour ma génération, pour notre génération, peut-être le plus grand défi du 21e siècle. Et je vous invite d'ailleurs à reprendre l'ouvrage de l'un de vos confrères du Monde qui s'appelle « La ruée vers l'Europe ». Et qui nous dit que la population, la démographie africaine va doubler d'ici 2050. Donc la question, c'est soit on accepte cette ruée vers l'Europe, soit on accepte ces changements de langue, ces changements de culture, ces changements de coutumes, avec tout ce qu'elles impliquent, et notamment en matière de régression pour les droits des femmes. Regardez ce que sont en train de faire aujourd'hui les talibans. Regardez les photos des femmes afghanes dans les années 50, dans les années 60. Mais il n'y avait pas une seule femme qui portait le
voile. Pardon, mais vous mélangez deux choses. Hein. Enfin, la situation en Afghanistan, ce n'est pas la situation en France. C'est le droit des femmes en France. Monsieur Bardella n'est pas celui des femmes en Afghanistan.
Monsieur Boursier, non, je vais vous emmener à Saint-Denis, là où j'ai grandi.
Ce n'est pas la règle, monsieur.
Je vais vous emmener à Saint-Denis, là où j'ai grandi.
Ça existe dans certains quartiers.
Et de la cité HLM où j'ai grandi, du 8e étage où j'ai grandi, je voyais en face de chez moi une école coranique, une école privée, qui n'était pas sous contrat et qui voyait tous les midis, tous les soirs, des groupes de jeunes filles de 5-6 ans sortir avec un voile sur la tête. Ça ne pose peut-être pas de problème à certains, moi ça me pose un problème, et je pense que le plus grand défi pour la France au XXIe siècle, c'est peut-être de rester elle-même.
Mais beaucoup de gens partagent un constat, ou en tout cas parlent d'immigration, même à gauche. Hein,
je suis ravi qu'enfin on vienne sur nos
justement,
constats.
Vous avez une prééminence historique sur ce sujet, mais est-ce que vous êtes les plus crédibles techniquement? Quelle est la principale mesure que vous prendriez, juridiquement parlant, et qui aurait des effets rapide si vous arrivez
un moratoire sur l'immigration.
Mais là, ils sont français, les gens qui sont en Seine-Saint-Denis. Ils sont français en plus.
Marine Le Pen est élue au mois d'avril prochain. C'est l'assurance que sera décrété dès les prochaines semaines un moratoire sur l'immigration.
Et comment vous faites, techniquement?
On supprime toutes les pompes aspirantes qui font que des gens viennent dans notre pays parce que notre pays est devenu la poule aux œufs d'or, est devenu extrêmement attractif. On supprime les soins gratuits pour les clandestins. On supprime la possibilité de régulariser des clandestins au motif qu'ils ont un contrat de travail. On organise le traitement des demandes d'asile dans les pays tierces, dans des pays étrangers, exactement comme vient de le faire le Danemark. On procède à l'expulsion de gens qui n'ont rien à faire sur notre sol, avec qui nous ne partageons strictement rien et qui viennent, c'est vrai, gonfler les chiffres de l'insécurité et de la délinquance. Enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas me reprocher de décrire cette réalité quand 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet de Paris sont des mineurs étrangers. On voit bien la corrélation entre l'importation. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui viennent dans notre pays sont susceptibles de commettre des crimes ou des délits. Ça veut dire qu'on a été beaucoup trop généreux ces dernières années. Et on a été beaucoup trop généreux parce que les gens qui ont été au pouvoir, les Républicains comme la gauche, ont mené notre pays, ont transformé notre pays en un hall de gare. Où vous rentrez sans aucune condition de ressources, de maîtrise de la langue, d'amour du pays, vous rentrez et... Et cette générosité, elle n'existe dans aucun autre pays du monde. Et parce que la solidarité doit rester nationale, eh bien je considère que si nous sommes élus au mois d'avril, eh bien nous serons élus pour protéger la France et pour protéger
typiquement,
les Français d'abord.
Une proposition, Éric Ciotti, vous l'avez vu, candidat à l'élection présidentielle, il est contre le droit du sol, il veut rétablir le droit du sang. Vous en dites quoi, vous?
Mais ils sont formidables.
Non, mais je vous demande ce que vous en dites.
Non, mais c'est ils sont formidables. Vous savez, Chateaubriand disait... pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. Et moi, je vois beaucoup de républicains aujourd'hui, M. Ciotti d'ailleurs, qui a appelé à voter pour M. Muselier, je crois, aux élections régionales, qui était soutenu à la fois par Europe Écologie Les Verts, par une alliance qui allait jusqu'à l'Élysée. Je vois Mme Pécresse nous expliquer qu'il faut désormais remettre les clandestins dans des avions vers leur pays d'origine. Enfin, je veux dire, c'est formidable. Parce que ces gens-là, ils ont été au pouvoir.
Que dites-vous de cette
proposition? Ces gens-là, ils ont été aux responsabilités. Ouais. Mais vous me demandez mon avis sur une proposition que le Front National hier et le Rassemblement National formulent depuis 40 ans. Ces gens, ils ont été au pouvoir. Ils ont été pour M. Bertrand, Mme Pécresse, les ministres de Nicolas Sarkozy. Mme Pécresse, qui nous dit qu'il y a un problème de sécurité dans le pays, elle a été, comme ministre du Budget, celle qui a supprimé 12 500 policiers et gendarmes, 12 500 postes de policiers et de gendarmes. Elle a participé d'un gouvernement comme M. Ciotti, comme M. Bertrand, qui a fait rentrer 1 million d'étrangers en 5 ans.
Mais ils font des propositions,
d'un gouvernement qui a supprimé,
du sol, pour
qui a supprimé la possibilité d'expulser les délinquants et les criminels étrangers. Je suis pour, mais à ce moment-là, qu'ils viennent prendre leur carte au Rassemblement National, qu'ils appellent à voter pour Thierry Mariani aux élections régionales en PACA et pas pour M. Muselier. Donc voyez ce double discours de la part de gens qui ont mené notre pays dans une situation catastrophique aujourd'hui, eh bien je crois qu'il sera très certainement sanctionné dans les urnes.
Si elle est élue, Marine Le Pen veut organiser un référendum sur l'immigration, quelle sera la question ?
Elle posera la question au peuple français. Elle obtiendra une légitimité auprès du peuple français.
Mais est-ce qu'elle n'aura pas déjà avec l'élection présidentielle ?
Je pense qu'un certain nombre de mesures que nous souhaitons prendre aujourd'hui se verront opposer la politisation d'un certain nombre de juges. Il y a une grande partie des juges qui, aujourd'hui, dans notre pays, ne font plus du droit, mais de la politique. Voilà, une grande partie des juges, on a beaucoup parlé du syndicat de la magistrature, qui est à gauche, voire très à gauche, et qui considère, par exemple, ça a été le cas du Conseil constitutionnel, que le principe de fraternité est un principe universel dans notre Constitution. Liberté, égalité, fraternité. Et bien, sur ce seul principe de fraternité, des juges de gauche politisés ont considéré en matière juridique que la lecture de ce principe devait abolir la distinction qu'on faisait entre un immigrant légal et un immigrant illégal.
Il s'agit d'obtenir
auprès du peuple français, eh bien, si les juridictions européennes sont contradictoires comme celles de la CEDH, eh bien, nous romprons avec ces juridictions et nous en sortirons. Mais je veux juste dire que la candidature de Marine Le Pen est une candidature de liberté. Il faut reprendre aujourd'hui le volant de la voiture, la possibilité de maîtriser nos frontières, de maîtriser notre politique migratoire,
parce que nous avons encore pas mal de questions à vous poser. Nous allons clore ce chapitre sur les questions d'immigration. La jeunesse.
Oui, on va parler de jeunesse puisque vous avez encore 25 ans pour quelques jours. Jordan Bardella. On s'achemine vers un nouveau dispositif pour les jeunes. Les jeunes ont été victimes de cette crise de la Covid avec ce revenu d'engagement pour les jeunes qui rassemblerait un tout petit peu tous les dispositifs en cours, mais avec une condition, évidemment, ça serait la condition de chercher un travail, de se former. Est-ce que vous y êtes favorable en disant, voilà, c'est une manière de faire rentrer des jeunes qui ont été exclus dans la société ?
Les jeunes ont été très sévèrement impactés par ces restrictions sanitaires. Ils aspirent aujourd'hui à la liberté, pour beaucoup à reprendre une activité. Nous avions nous proposé un certain nombre de mesures qui peuvent parfois s'apparenter à ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait, à la fois dans le cadre des élections régionales. Marine Le Pen avait notamment proposé que tout jeune qui souhaite, par exemple, investir, monter une entreprise, puisse être aidé. Par exemple, on met 5 000 euros pour monter une entreprise. Eh bien, l'État met également 5 000 euros et vous êtes également exonéré d'impôt sur le revenu. Donc, il y a beaucoup de mesures à prendre pour les jeunes.
Marine Le Pen aura l'occasion d'en faire dans le cadre de l'élection
présidentielle. Mais, je veux dire, il va falloir à un moment donné qu'on se pose la question de continuer avec ces mesures de restriction tout azimut qui pénalisent la jeunesse, qui pénalisent nos chefs d'entreprise, qui pénalisent nos commerçants, nos artisans.
Est-ce que vous êtes favorable à cette proposition pour dire les choses simplement, Jean-Claude Bardella ? Le gouvernement dit pas de RSA pour les moins de 25 ans. En revanche, si vous travaillez, si vous vous formez, si vous êtes dépendant de la droite, vous allez vous faire soigner, on vous donne une allocation.
Mais écoutez, il n'y a pas lieu de discuter ce type de mesures.
Il y a des
mesures qui ont été prises d'aide aux entreprises, et notamment le chômage partiel, que nous avons soutenu et que nous avons appuyé. Donc, je n'ai pas de difficulté. Mais la question, c'est juste, est-ce qu'on continue d'avoir des restrictions qui n'ont aucun effet sur la situation sanitaire du pays et qui pénalisent durement les jeunes en matière de liberté. Enfin, j'imagine qu'on va ouvrir le débat sur le pass sanitaire, mais à quoi nous sert aujourd'hui le pass sanitaire ?
Alors vous savez quoi ? Réservez vos arguments s'il vous plaît, Monsieur Bardella, parce que nous allons poursuivre cet échange dans quelques instants. La pub et la suite de BFM Politique sur BFM TV. La suite de BFM Politique en compagnie du vice-président et député du Rassemblement National, député européen, Jordan Bardella. Monsieur Bardella, il y avait une nouvelle manifestation d'anti-vax, anti-pass sanitaire hier un peu partout en France. Je précise les deux parce qu'on peut être anti-vax et pas anti-pass sanitaire. Enfin, anti-vax, anti-pass sanitaire, mais anti-pass sanitaire et pas nécessairement anti-vax. C'est la 7e semaine consécutive qu'il y avait une mobilisation. Quel crédit est-ce que vous accordez à ces mobilisations ?
Je pense que le gouvernement ne peut pas ignorer aujourd'hui, cet appel d'une grande partie des Français, parce qu'il y a un soutien important, notamment dans l'opinion, du recul des libertés qui est en train d'organiser cet outil qui est le pass sanitaire. Oui, moi, je suis solidaire de gens qui manifestent pour défendre leur liberté.
Donc ceux qui ne m'inscrivent pas dans les caricatures
contre le pass sanitaire, mais pas ceux qui sont contre le vaccin.
Moi, je ne suis. Non, mais sur le vaccin, on a toujours été attaché au consentement libre et éclairé. Voilà, je pense que les gens, les Français, sont suffisamment grands, je dirais majeurs et vaccinés pour le coup, pour se faire un avis sur l'utilité ou non, en fonction de leur profil, de leur âge, éventuellement de leur comorbidité, de se faire vacciner ou non. Mais vous voyez, je pense que l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber, celui de la caricature. Le gouvernement hystérise la situation depuis plusieurs semaines, il joue sur les peurs. Moi, j'entendais le 18 juillet. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, nous parlait au mois d'août d'un tsunami viral. Il nous a parlé, je crois, de quasiment, en disant qu'on pourrait aller jusqu'à 120 000 contaminations au mois d'août. Il y en a eu à peine 20 000. On est à 40% aujourd'hui de tensions hospitalières. Donc, si vous voulez, ce gouvernement, il joue sur les peurs.
Ça reste important, vous ne pouvez pas le nier. Et d'accord. Par ailleurs, il y a une donnée. Alors, les faits sont têtus.
Mais aujourd'hui,
le Covid-19, Jordan Bardella, c'est la première maladie nosocomiale. C'est-à-dire, c'est la première maladie que l'on attrape à l'hôpital.
Je ne vous dis pas le contraire. Je dis juste qu'on cherche à nous enfermer depuis plusieurs semaines entre une alternative qui vise à choisir entre soit le confinement généralisé, la fermeture de tout et partout, et ce pass sanitaire. Mais on commence à en revenir du pass sanitaire. Parce qu'au-delà des contraintes économiques que cela impose à nos restaurateurs, et je lisais une enquête du syndicat des indépendants, nous indiquant qu'au mois d'août, on avait perdu jusqu'à 30%, 40% de fréquentation dans les restaurations. J'ai vu que le Danemark a retiré devant les conséquences catastrophiques sur l'économie, sur les commerçants, sur les artisans.
Donc vous demandez, donc là j'en ai marre des larmes, vous demandez, demandons au gouvernement la suppression
de lever le pass sanitaire. Et pour une raison très simple,
dans les restaurants et dans les hôtels.
Sanitairement parlant, si je puis me permettre, on commence à en revenir. Moi, j'ai entendu l'épidémiologiste Martin Blacher nous expliquer que l'immunité collective, elle n'était pas atteignable. Et elle n'était pas atteignable pour une raison très simple, c'est que ce qu'on nous a présenté comme un vaccin, et encore une fois, je suis vacciné.
Vous avez vos deux doses ?
Je suis vacciné une dose, parce que j'ai eu le Covid. Donc une seule dose avec Pfizer. Je suis totalement favorable à la vaccination, et notamment la vaccination des personnes à risque. Mais quand des médecins nous disent aujourd'hui, et arrivent au constat suivant, quasiment tous les médecins le disent, le vaccin, il ne protège pas de la transmission. Il protège les formes graves. Donc ça veut donc dire que quand vous êtes dans un restaurant, que vous croyez être protégé avec un pass sanitaire, eh bien, on vous enlève une liberté, mais on ne vous ajoute pas une sécurité. Parce que ce sont aujourd'hui les vaccinés qui transmettent le virus à des gens qui ne sont pas vaccinés et qui sont PCR négatifs.
Excusez-moi, M. Bardella, mais il faut être précis. Vous dites qu'il n'empêche pas la transmission. C'est vrai, vous avez raison, il y a un consensus médical. En revanche, et vous l'avez dit rapidement, mais il faut le préciser, c'est important, vous êtes un responsable politique. Il empêche les formes graves. Mais c'est l'essentiel, M. Bardella. Ouais. Des gens qui sont hospitalisés en réanimation pendant 3 semaines, des gens qui meurent.
Donc le pass sanitaire.
S'il n'attrape qu'une forme réduite,
merci de me permettre de le préciser. Donc, la vaccination a donc un intérêt pour protéger les formes graves, et notamment les publics à risque. Mais ça n'a donc aucun intérêt dans le cadre d'un pass sanitaire qui vise à réduire vos libertés
de manière
totalement délirante. Enfin, on vous impose la vaccination obligatoire pour les gendarmes, mais on ne l'impose pas pour les policiers. Sans doute parce qu'on a peur des manifestations et des syndicats dans la police. On vous l'impose dans un TGV Nice-Marseille, mais vous n'en avez pas besoin dans un RER Nice-Marseille. On ne l'impose pas en entreprise, alors que toutes les études nous ont indiqué que c'était le point noir de la vaccination et de la transmission du virus, oui, en entreprise, mais pas en terrasse, alors même qu'on nous explique pendant des semaines qu'il y avait un risque très faible.
Donc vous voulez la suppression.
En extérieur. Je dis qu'il faut arrêter le n'importe quoi. Il faut arrêter le n'importe quoi. Et ce pass sanitaire, il n'a aucun sens d'un point de vue sanitaire. Il empêche la reprise économique de nos entreprises et notamment de nos restaurateurs qui ont été pénalisés, qui ont été fermés plusieurs mois, soutenus mais pénalisés pendant plusieurs mois à cause du confinement généralisé, et qu'il faut revenir à un peu de raison. Est-ce qu'on ne généralise pas les purificateurs d'air dans les classes ? L'Allemagne a débloqué 200 millions d'euros pour généraliser les purificateurs d'air dans les classes.
Là, vous savez pourquoi aussi, ce sont les collectivités territoriales qui les achètent.
Mais il n'y a pas d'argent magique.
Non.
Et les collectivités, vous voyez, on ne peut pas
Bardella,
leur baisser.
Juste pour préciser les choses, vous le savez, je vais juste le dire pour
Pardon, vous avez raison. Pardon, excusez-moi.
Les villes, les communes s'occupent des maternelles, des primaires, les départements gèrent les collèges, les lycées sont gérés par les régions, sont donc ces collectivités qui achètent les purificateurs. Et par ailleurs, nous avons passé des coups de fil pour la préparation d'une autre émission qui fact-check samedi, et nous avons vérifié que certaines régions achetaient beaucoup de purificateurs d'air.
Quand elles en ont les moyens, parce que ça coûte relativement cher, et que les communes, nous avons beaucoup de villes. Et dans nos villes, c'est vrai que les maires nous disent, mais nous ne sommes pas aidés à la hauteur de ce qu'il faudrait. Alors
justement, les purificateurs, est-ce que vous craignez la rentrée scolaire, c'est cette semaine, la semaine qui arrive, est-ce qu'elle vous fait peur, d'un point de vue sanitaire ?
Mais ce qui me fait peur est le n'importe quoi généralisé et la manière totalement, je dirais, absurde, brutale, violente avec laquelle est gérée cette épidémie. On sait que les enfants ne font que des formes bénignes du Covid. Tous les médecins, encore une fois, le disent. On commence à avoir un peu de recul, à la fois sur l'efficacité des vaccins, à la fois sur la durée avec laquelle vous êtes protégé, et à la fois sur les publics qui sont à risque. Moi, ce qui m'inquiète, vous voyez, je refuse ce dilemme qui est à choisir entre confinement général ou passe sanitaire. Et pourquoi ? Parce que on connaît les publics à risque. On sait que la mortalité du Covid, elle est très faible pour vous et moi. En revanche, sur des publics à risque, sur des personnes à comorbidité, sur les 13 millions de personnes qui, en France, ont des comorbidités ou sont des personnes âgées, sont à risque. Or, on sait aujourd'hui que 20% des plus de 80 ans n'ont pas été vaccinés, n'ont toujours pas reçu une dose de vaccin. Il y en a beaucoup qui vivent dans des déserts médicaux, il y en a beaucoup qui vivent dans les campagnes, très loin des villes, très loin des centres urbains, et qu'il faut donc aller chercher.
Il y a des bus.
Mais il y a des bus depuis quoi ? Depuis 2 semaines ? 3 semaines ? Et ce qui me gêne, si vous voulez, on ne peut pas demander au peuple français d'avoir confiance dans les gens qui sont au pouvoir, quand les gens qui sont au pouvoir changent d'avis tous les 4 matins.
Enfin,
je veux dire, on leur a dit qu'on ne mettrait pas de passe sanitaire. Et paradoxalement, et parallèlement à ça, moi je suis revenu d'Italie avant-hier, où je suis allé passer quelques jours. Il n'y a pas un seul contrôle à la frontière. Il n'y a pas un seul contrôle à la frontière. Donc si on veut aller boire un café ensemble ensuite en terrasse, où on sait qu'il n'y a aucune possibilité très faible de se transmettre le coronavirus, on va me demander un pass sanitaire. Et en même temps, quand vous arrivez d'un pays à l'étranger où on sait que peut se développer très loin de la France de nouveaux variants, on ne vous contrôle pas. Mais c'est fou.
Encore
c'est
une question sur la vaccination.
Donc il faut revenir à un peu de raison. Il faut revenir à un peu d'équilibre, il faut revenir à un peu de rationalité et arrêter ce chantage, cette brutalité et cette confiscation des libertés qui ne concerne pas seulement les libertés de circulation, mais qui concerne toutes les libertés. Et je crois que derrière ces manifestations, il y a aussi un mouvement de protestation générale et sociale contre le gouvernement qui monte. Et j'espère que nous aurons l'occasion de reparler du pouvoir d'achat, qui me semble être le thème principal de cette rentrée.
Vous êtes favorable à la vaccination. Est-ce qu'il faut vacciner les enfants de moins de 12 ans?
Mais c'est aux parents de le décider. Voilà. Aujourd'hui, tous les médecins nous disent que les enfants font des formes bénignes du Covid. Donc, faut-il, oui ou non, vacciner les enfants? Je crois que c'est aux parents de le dire. Je suis attaché à ce principe médical qui me semble être sacré, qui est le consentement libre et éclairé.
C'est très clair, Jordan Berlin. Pardonnez-moi.
Vous m'avez reproché de ne pas être clair tout à l'heure, donc j'essayais de...
C'est parfait. Voilà, avançons, s'il vous plaît. Limpide. Justement, l'aspect économique.
On va passer à l'aspect économique, pardon, le quoi qu'il en coûte. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a dit devant les patrons, c'était mercredi, je crois, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Sauf pour certains secteurs, l'hôtellerie, la restauration, ça sera du sur-mesure. Est-ce que vous vous dites quand même que ce quoi qu'il en coûte, vous avez rendu un peu hommage au chômage partiel, est-ce que vous dites que le gouvernement il a quand même bien géré cette crise sanitaire avec ses conséquences économiques?
Non, je pense que le gouvernement, je distingue les mesures qui ont été prises, les mesures d'accompagnement qui ont été prises pendant le premier confinement, même si beaucoup d'entreprises réclamaient des fonds propres que nous avions proposés et qui n'ont été alloués que très tardivement par le gouvernement. Mais je dis juste qu'on a fait payer...
Le fonds de solidarité.
Je dis juste que... Oui, mais c'est bien beau, si vous voulez, de pleurer sur le lait renversé. Parce que quand on referme les commerces de première nécessité, alors même qu'une étude de l'Institut Pasteur au mois de décembre nous dit qu'il n'y a aucun risque de transmettre ou de recevoir le virus dans des commerces de première nécessité, qu'ils constituent des clusters extrêmement restreints, extrêmement faibles, et qu'on les ferme quand même. Vous ne croyez pas que le gouvernement a une responsabilité dans la dette, dans les inquiétudes qu'il nourrit auprès des chefs d'entreprise? Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui n'attendent qu'une seule chose, qu'une seule liberté, qu'une seule aide de la part du gouvernement, c'est de pouvoir retravailler et de pouvoir retravailler comme avant.
Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut continuer? Réunion demain, est-ce que vous leur dites, pour les restaurants, l'hôtellerie, il faut absolument poursuivre ce quoi qu'il en coûte?
On ne va pas se mentir, il y a des secteurs, et notamment les secteurs de l'hôtellerie, les secteurs du tourisme, pas partout, mais qui vont devoir continuer à être aidés. On est en Ile-de-France, et moi je pense notamment à la baisse de fréquentation qu'ont pu connaître les restaurateurs sur un été qui n'est peut-être pas l'été le plus touristique qui soit en Ile-de-France, et évidemment qu'ils doivent être le gouvernement doit continuer de les aider. Mais je dis juste une chose, c'est que soit on repart avec le même modèle économique. On doit tirer les enseignements de cette crise. Cette crise, elle a remis dans le débat public ces mots aussi importants que la souveraineté économique, que le patriotisme économique. Parce que pendant qu'on parle de microéconomie, c'est important. On oublie un peu la macroéconomie et on oublie que la France est le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas avoir été en capacité de produire un vaccin. Et pas parce qu'on manque de génie en France.
Paraît-il.
Pas parce qu'on manque de génie, pas parce qu'on manque de talent, pas parce qu'on manque de compétences, mais que la France ne permet pas le cadre aujourd'hui pour nos chercheurs de rester en France, d'être soutenus par la puissance publique, par l'État stratège. Il faut faire le patriotisme économique. Et le choix de Marine Le Pen au mois d'avril prochain, c'est aussi un choix pour la souveraineté économique et pour le patriotisme économique. Il y a des filières aussi essentielles que nos médicaments. Pourquoi est-ce qu'on est dépendant de la Chine en matière de médicaments? Il faut ramener ces filières en France.
Parce que c'est moins cher de fabriquer en Chine du Doliprane. Voilà.
Eh bien, il y a un certain nombre de secteurs où la question du combien ça coûte ne doit pas être posée. Et je pense par exemple à l'hôpital public, parce que ce que tout le monde oublie de dire, c'est que la principale crise que nous avons vécue est une crise des capacités hospitalières. En Martinique, on reconfine. Alors on nous dit on est saturé à 150%, mais en fait c'est quoi? C'est 35 lits sur 375 000 habitants, c'est dérisoire. On a supprimé 100 000 lits ces 20 dernières années dans l'hôpital public, fait 9 milliards d'euros d'économie. Le service public, c'est pas fait pour être rentable, c'est pas fait pour être géré comme une entreprise. C'est vrai dans l'hôpital, c'est vrai dans l'école, et c'est vrai aussi dans la sécurité, dans la police.
Le Rassemblement National a fait ses journées d'été juste avant les vacances, les autres partis font leur rentrée politique là ce week-end, c'est un week-end extrêmement chargé de ce point de vue-là. Vous avez rappelé la date de la mi-avril avec l'élection présidentielle. Il y a un homme qui pourrait être candidat, c'est Éric Zemmour. En tout cas, il s'achemine de plus en plus manifestement vers une candidature. Hier, il a pris la parole. Il était l'invité d'une sorte de forum. Je propose de l'écouter au sujet de Marine Le Pen.
Marine Le Pen, elle a un socle très, très solide, mais vous avez vu, elle a déjà perdu 5 points dans les sondages. Elle était à 26, elle n'est plus qu'à 21. Je pense que l'échec au régional a été un très mauvais coup pour elle. Et tout le monde a compris au RN qu'elle ne gagnerait jamais. Voilà, c'est tout, c'est clair.
C'est clair, dit Éric Zemmour, tout le monde a compris qu'elle ne gagnerait jamais.
Éric Zemmour, il fait ses premiers pas en politique. Voilà, il fait ses premiers pas en politique, et quand vous faites vos premiers pas en politique, vous en faites parfois un peu trop. C'est-à-dire vous les tapez sur tout le monde, vous les tapez sur vos opposants, etc. Bon, je note qu'il est un peu plus virulent avec Marine Le Pen qu'il ne l'est avec Emmanuel Macron, et je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'Éric devrait écouter ses amis. Il devrait écouter notamment Robert Ménard, qui est un ami qui le respecte, comme nous d'ailleurs, hein, qui a une certaine admiration pour l'homme, pour le débatteur qu'il est, pour le journaliste qu'il est, pour l'auteur, pour l'écrivain qu'il est. Et Robert Ménard, il a dit une chose, il a dit à Éric Zemmour, nous sommes amis, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais je ne parrainerai pas ta candidature à l'élection présidentielle. Parce que ce qui est important dans cette élection présidentielle, c'est de se rassembler au-delà de nos divisions. Et je ne crois pas qu'il soit utile d'ajouter de la division à la division. Et qu'en réalité, ce type de propos ne fait plaisir qu'à une seule personne, c'est Emmanuel Macron. Et puis, mais je regarde les sondages. Marine Le Pen est donnée aujourd'hui au premier tour de l'élection présidentielle en tête. Elle est donnée avec les marges d'erreur au coude à coude avec Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, ce qui veut donc dire que Marine Le Pen peut gagner l'élection présidentielle. Moi, je pense que le prochain président de la République sera patriote ou ne sera pas.
Mais voilà,
il sera protecteur ou il ne sera pas. Et je crois que nous avons la responsabilité, nous, les gens de nos idées, qui partageons la volonté que la France reste elle-même dans ce 21e siècle, de nous rassembler et de ne pas entrer dans des divisions.
Mais Marine Le Pen n'arrive pas à percer dans certains milieux, je pense au milieu économique notamment. Éric Zemmour a dîné ces derniers temps avec des grands patrons, il a enchaîné ce genre de dîner. Est-ce qu'il n'est pas plus crédible?
Vous pensez que Marine Le Pen ne voit pas des gens, qu'elle ne voit pas
Marine Le Pen, elle n'a pas rassuré les grands patrons.
Vous pensez qu'elle ne voit pas de patrons, d'acteurs du monde économique, parfois même de journalistes, peut-être que vous ignorez, qui nous disent être assez proches de nos idées, contrairement à ce qui peut se passer parfois sur les plateaux télé. Donc je crois que les consciences changent. L'élection présidentielle de 2022 n'est pas celle de 2017. Marine Le Pen peut gagner cette élection présidentielle. La seule question qu'on doit se poser, qu'Éric Zemmour doit se poser, que tous ceux qui partagent nos idées doivent se poser, c'est est-ce qu'on souhaite, au mois d'avril prochain, qu'Emmanuel Macron soit réélu et s'engager dans un nouveau quinquennat de chaos, de désordre, de désunion entre les Français, d'impuissance en matière d'immigration, de sécurité, de saignée fiscale, à l'heure où les tarifs du gaz ont augmenté de 50% en un an, où le prix du carburant n'a jamais été aussi haut ces deux dernières années, à l'heure où le pays est fracturé entre, et ça c'est le bilan d'Emmanuel Macron, entre d'un côté de moins en moins de riches, de plus en plus riches, et de l'autre de plus en plus pauvres. Est-ce qu'on accepte cette division de la société? Si oui, alors il faut voter pour Emmanuel Macron, et sinon il faut se rassembler derrière la seule personne qui a montré, par tous les thèmes qu'elle a mis sur la table depuis 20 ans, qu'une grande partie des Français nous accorde cette légitimité idéologique de pouvoir créer les conditions du rassemblement.
Une partie, certains élus, anciens élus, déçus du Rassemblement national, aujourd'hui font partie des soutiens d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il y a quelqu'un au RN qui est chargé d'échanger avec Zemmour?
Mais nous avons des contacts avec tout le monde.
Qui s'en occupe? Qui parle avec lui?
Est-ce que Marine Le Pen peut vous faire participer à nos réunions si vous le souhaitez, mais ça n'a pas d'importance. Enfin, je veux dire, tout cela est dérisoire. Évidemment qu'il y a des contacts.
Vous partagez les mêmes idées et vous allez vous opposer.
Évidemment qu'il y a des contacts. J'ai beaucoup de respect pour Éric, pour la personnalité, pour l'écrivain, pour le débatteur qu'il est. Mais je dis juste qu'être président de la République, ce n'est pas un exercice de jouissance. C'est un exercice de service. Être président de la République, ce n'est pas jouer. C'est pas vouloir être candidat pour faire la tournée de son bouquin. C'est pas être candidat pour se faire plaisir, pour se faire mousser, pour bomber le torse. C'est vouloir présider aux destinées du pays, rassembler.
Vous y allez franchement là,
s'inscrire
sur le sujet d'Éric Zemmour.
Dans ces trois dimensions, quand on est président de la République, que sont le passé, le présent et le futur.
Donc lui, il en fait c'est une candidature égotique, quoi, ce que vous nous dites. Hein.
Mais je ne sais pas. Mais je dis juste
vous
que.
Vous venez de le dire, Jordan Bardella, et à plusieurs reprises.
Je ne sais pas, mais vous en ferez les lectures subliminales que vous souhaitez.
Je pense qu'on n'avait pas besoin de
subliminales.
Mais je dis
juste
sur
que
du stabilo, là, tu peux me dire.
L'essentiel, c'est qu'on se rassemble. Marine Le Pen va quitter dans quelques jours la présidence du Rassemblement National parce qu'elle ne veut pas être la candidate d'un parti. Elle ne veut pas être la candidate d'un clan. Elle ne veut pas être la candidate d'une famille politique. L'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme ou une femme et le peuple français.
C'est le général de Gaulle.
Ouais. Mais parce que ça correspond à l'esprit de la Ve République.
Juste, est-ce que vous avez donné au Rassemblement national des consignes par rapport à des demandes de parrainage d'Éric Zemmour? Est-ce que vous avez dit surtout pas, vous avez une interdiction? On a vu que Robert Ménard...
J'ose espérer.
Non, mais je sais pas.
J'ose espérer que les élus du Rassemblement national parraineront la candidate du Rassemblement national. Et croyez-moi, il n'y aura pas de difficulté à ce niveau-là. Mais voyez quelqu'un comme Robert Ménard qui
oui,
la quasi-totalité, la même ligne idéologique qu'Éric Zemmour, qui partage cette volonté que les droites se rassemblent, même si je trouve ce terme un peu restrictif, mais il le dit lui-même, nous sommes amis Éric, mais ne fais pas cela, tu vas participer d'une division inutile, et donc je ne souhaite pas, malgré tout le respect que j'ai pour toi, te parrainer, et je parrainerai donc la seule qui est en capacité de battre Emmanuel Macron, qui a beaucoup appris de ces 20 dernières années, et qui a imposé dans le débat public tous les thèmes qui sont partagés aujourd'hui, y compris par nos adversaires, y compris par beaucoup d'observateurs, c'est-à-dire la candidature de Marine Le Pen.
Vous êtes-vous remis à titre personnel, au niveau de votre parti, des élections régionales et de la résultat?
Moi, je pense que ces régionales, elles se sont déroulées dans un désert d'indifférence. Voilà, il faut dire les choses.
Oui, mais vous aviez aussi, au moment des résultats, eu l'honnêteté de reconnaître que c'était tout sauf un résultat qui vous rendait heureux.
Vous savez, on est heureux dans la victoire. En politique, quand on perd, on est peut-être un peu moins heureux. C'est un peu comme l'ensemble des disciplines. Mais,
c'était subliminal à mon tour.
Non, mais je pense que, si vous voulez, les régionales et les départementales n'ont pas passionné les foules. Voilà, et que dès le lendemain matin, les Français étaient passés à autre chose. Ils n'ont pas vu l'intérêt politique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui ont le sentiment que la politique, elle se fait ailleurs, que nos dirigeants prennent systématiquement des décisions qui sont contraires aux intérêts du pays. Eh bien, je pense que nous pouvons, avec cette élection présidentielle, redonner ces lettres de noblesse avec comme seul projet politique de permettre aux Français de reprendre le pouvoir. Il y a un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les idées du Rassemblement national sont, dans toutes les études d'opinion, et là je m'adresse aux journalistes que vous êtes, sont les idées d'une majorité de Français. Eh bien, je dis, vous avez possibilité, au mois d'avril, de faire enfin gagner vos idées, c'est-à-dire le patriotisme en France.
Mais les régionales ont quand même mis un coup au moral au Rassemblement national, ça se sentait au congrès de Perpignan début juillet, et il y a un doute qui subsiste sur l'envie de Marine Le Pen. Est-ce que vous vous diriez qu'elle est moins déterminée qu'avant, quelque part?
Elle est encore plus déterminée qu'elle ne l'a jamais
même
été.
Même la troisième fois.
Et je vous dis ça parce que je la connais, parce que nous travaillons ensemble, parce que je vois les gens qui, autour du Rassemblement national, souhaitent discuter avec nous, des gens qui n'auraient peut-être jamais franchi le pas il y a quelques années auparavant.
Qui ça?
Des gens qui disent, mais vous le saurez dans les prochaines semaines, des gens qui, pendant des années, des Français, des électeurs qui ont dit, je n'ai jamais voté pour le Rassemblement national. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vos idées, elles sont nécessaires, elles sont majoritaires dans le pays. Il y a des gens qui nous ont rejoints, on l'oublie un peu trop souvent.
C'est-à-dire que vous allez annoncer des ralliements
pendant ces élections régionales. Mais ouais, il y aura des ralliements. Il y en a eu aux élections régionales, y compris des gens anciennement de votre profession, comme Philippe Ballard, qui a été journaliste en première ligne de l'actualité pendant des années, qui nous a rejoints, des anciens ministres, des magistrats comme Jean-Paul Garraud, des gens qui vont venir continuer à nous rejoindre parce que, encore une fois, ce n'est pas le Rassemblement national qui arrivera au pouvoir, mais un large rassemblement.
Alors justement, au sujet des propositions
conduites par Marine Le Pen.
Justement, Marine Le Pen s'est reposée, paraît-il qu'elle était épuisée, s'est reposée en Bretagne, et elle dit qu'elle a beaucoup travaillé. Est-ce qu'elle a bouclé son projet présidentiel?
Le projet politique est en train d'être finalisé. Il sera, vous en doutez, présenté dans les prochaines semaines.
À Fréjus, mi-septembre.
Très bientôt, à Fréjus, le 12 septembre, Marine se mettra en retrait de la présidence du Rassemblement national pour se lancer, je dirais, dans cette grande tournée, dans cette
rencontre avec les Français. Mais sur la présentation de son projet présidentiel.
Mais elle va commencer très tôt. Elle souhaite, et notamment elle demandera dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, un rendez-vous au chef de l'État pour évoquer avec lui la situation en Afghanistan. À la fois la situation de ceux que on nous dit être des réfugiés et à la fois du rôle diplomatique que doit aujourd'hui et du tournant diplomatique que doit aujourd'hui prendre l'OTAN. Donc nous travaillons beaucoup, nous prenons en compte les réalités du pays. Il s'agit juste, j'ai longtemps entendu pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, à vous changer de position, vous n'êtes plus totalement franc sur la rupture avec l'euro, sur la rupture avec l'Europe. Il s'agit simplement de rendre politiquement et juridiquement possible le projet national. De ne pas se dire, de ne pas arriver devant les Français, comme peut-être veulent le faire certains candidats en disant c'était mieux avant, la France d'avant était meilleure.
Celui de 2017,
mais leur dire ça sera mieux demain, d'inscrire la France, d'inscrire le cadre de la nation dans la France du 21e siècle et de répondre aux défis démographiques, aux questions de pouvoir d'achat, à la transition énergétique, à l'intelligence artificielle, à tous ces grands défis qui vont être ceux de ma génération.
Au cours de la dernière élection présidentielle, il y avait eu une innovation du côté de Marine Le Pen dans l'entre-deux-tours, elle annonçait un ticket. Elle a présenté Nicolas Dupont-Aignan comme étant son premier ministre en cas d'élection. C'est le cas aux États-Unis. On sait, aux États-Unis, ils élisent un président, un vice-président, enfin une vice-présidente en l'occurrence, actuellement. Est-ce que cette idée pourrait à nouveau intervenir? Est-ce qu'il y a des personnalités politiques que vous avez identifiées qui pourraient faire office de ticket?
Oui, bien sûr, mais c'est encore trop tôt pour vous le dire. On est au mois de septembre.
Donc l'idée on pourrait être renouvelée.
Mais bien sûr, mais c'est encore trop tôt pour le dire.
Et est-ce que c'est nécessairement avec un autre candidat ou une autre candidate, ou est-ce que ça peut être un ticket avant le premier tour?
Encore une fois, nous verrons. Enfin, je veux dire, on est au mois de septembre. On est à environ 230 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Je pense que ce qui intéresse les Français aujourd'hui, c'est ce que nous avons à proposer pour le pays. C'est ce que nous avons à proposer pour faire en sorte que leur plein de carburant ne leur coûte plus un prix exorbitant. C'est de savoir comment nous allons ramener la sécurité dans des quartiers aujourd'hui qui sont devenus des petites républiques islamiques, où les trafiquants de drogue font la loi. C'est de savoir comment nous allons rétablir l'autorité dans la société, à l'école, l'autorité dans la rue, comment nous allons soutenir nos forces de l'ordre, quels moyens nous allons donner à la justice pour agir, comment nous allons récupérer notre souveraineté au sein de l'Union européenne.
Je voulais parler de moyens. Comment est-ce que vous allez financer votre campagne? On sait que vous avez des dettes très importantes. Je crois que vous n'avez pas encore fini de rembourser l'emprunt que vous aviez fait lors de la précédente campagne. Comment est-ce que vous allez financer cette campagne présidentielle? Parce que ça coûte cher.
Nous la financerons auprès des Français qui nous prêteront, s'engageront pour la démocratie. L'une des promesses qui n'a pas été tenue par Emmanuel Macron était la banque de la démocratie. Je vous rappelle qu'à la dernière élection présidentielle, Marine Le Pen est la seule candidate, la seule, qui n'a pas reçu de prêt de la part du système bancaire. Posez-vous la question pourquoi, vous aurez peut-être...
Mais donc,
la réponse est peut-être que nous sommes quand même assez différents des autres. Je pense que Mme Pécresse ou M. Bertrand n'auront aucun problème pour pouvoir se financer.
Comment est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous
nous ferons ce que nous avons toujours fait. Nous en appellerons aux Français qui contracteront des prêts à la campagne, comme nous l'avons fait lors des élections européennes, à un taux, je vous rappelle, qui a été un taux peut-être plus important, peut-être 10 fois plus important que le livret A. Nous lancerons ce type d'opération parce que nous n'avons pas d'autre choix. Mais voyez, nous sommes libres. Nous dépendons de personne. Mmh. Nous n'avons de compte à rendre à personne. Marine Le Pen est une femme libre. Elle est une candidate libre. Pardon ?
C'est un emprunt russe que vous avez contracté.
Nous avons contracté un emprunt russe.
Oui, auprès de banques russes.
Nous avons contracté, lors des élections régionales de 2015, un prêt à une banque tchéco-russe, à un taux qui n'était pas un taux d'amis, un taux de 6%, vous l'admettrez, parce qu'aucune banque française, aucune banque européenne, nous avons publié toutes les lettres de refus, avait accepté de nous prêter. Mais banco, si une banque française accepte demain matin de nous faire un prêt pour l'élection présidentielle, comme en veut la coutume démocratique, je veux dire, on ne demande pas de l'argent pour nous enrichir, on ne demande pas de l'argent pour partir en vacances, on demande simplement le fonctionnement de la démocratie et la possibilité pour une candidate qui est donnée à 45, 46, 47, 48% au second tour de l'élection présidentielle et probablement gagnante avec les marges d'erreur de pouvoir concourir au scrutin majoritaire.
Candidate justement, et elle se met en retrait du parti, vous allez prendre les rênes du Rassemblement National, mais vous savez comme moi que Marine Le Pen restera dans les parages, par ailleurs elle a soigneusement verrouillé l'appareil. À quoi vous allez servir?
Mais où est-ce que vous avez vu que... D'où vous sortez qu'on a soigneusement verrouillé l'appareil?
Il n'y a qu'une seule personne qui décide au Rassemblement National, et c'est Marine Le Pen.
Mais
ça s'est d'ailleurs encore vu au congrès
de
Perpignan, avec des nominations...
Mais vous avez suivi attentivement le congrès de Perpignan.
Tout à fait.
Vous avez vu qu'il y a eu un vote de la part des adhérents. Vous avez vu que les membres qui composent le bureau exécutif sont des gens qui ont été extrêmement bien classés. Que je ne dois peut-être pas cette présidence par intérim à la volonté de Marine Le Pen, mais aussi, évidemment en grande partie, mais aussi au résultat du vote
des adhérents.
Vous êtes arrivé en tête.
Je suis arrivé en tête. Encore une fois, à quoi est-ce que vous allez servir?
Les nominations arbitraires, c'est vous qui les inventez. Mon rôle va être, mon premier rôle en tout cas, va être de préparer l'accession aux responsabilités et de composer la majorité présidentielle. Parce que si Marine Le Pen est élue présidente de la République, il y a des élections législatives dans les 5 semaines qui vont suivre. Et ces 5 semaines, elles vont être cruciales. Cruciales pour composer la majorité parlementaire. La majorité de députés qui va voter pendant 5 ans, j'espère 2 mandats, le projet politique de Marine Le Pen. Et pour cela, il faut un parti en ordre de marche, il faut un parti en ordre de bataille. C'est la situation aujourd'hui du Rassemblement National.
Un tout dernier
mot,
s'il vous plaît,
ma responsabilité sera celle de préparer, en tout cas de coordonner la préparation de la future majorité présidentielle et d'être, je dirais, le premier des soutiens en tant que première force politique de France de la candidature de Marine.
Si Marine Le Pen est élue, il y aura peut-être une batterie à l'Élysée. Je vais vous montrer cette photo du Point. C'est un article qui lui est consacré dans un cadre plus intime. Nous la voyons donc à un instrument de musique. Et vous avez évidemment vu cette, je ne sais pas si c'est une polémique qui naît sur les réseaux sociaux, la présence dans la bibliothèque derrière elle d'ouvrages consacrés à Hitler et à Goebbels. Que vous inspire cette polémique? Quelle est votre réaction?
Bon, je m'inspire que, enfin, elle m'inspire en tout cas que cette votre question et cette polémique n'est pas au niveau de l'émission et de que toutes les questions que vous m'avez posées.
Non, ça pourrait être une erreur de com. Il n'y a pas de sous-entendu dans cette question et c'est justement pour ça que
je me demande
de
s'il n'y a pas
émission.
Un sous-entendu. Bah non, dans
je vous
cette
dis,
question.
Elle
en
est
tout cas, si vous voulez, le fait d'avoir dans sa bibliothèque des bouquins historiques. Des bouquins sur le jardinage dans une bibliothèque qui est celle d'un ami de Marine Le Pen, si cela pose problème ou pose il y a des bouquins sur la période communiste aussi, si ça doit vous engager aussi à un certain parti pris, alors c'est inquiétant. Mais je me demande effectivement s'il n'y a pas une question subliminale, auquel cas ça m'inquiéterait parce que
si pas de question subliminale, votre argument je vous sur la
est celui de nous
de la polémique,
prêter un certain nombre de pensées que les médias ont essayé de nous prêter pendant des années qui n'a jamais fonctionné. Alors je pense que vous démarrez mal cette saison, cette campagne présidentielle, monsieur Boursier.
Démarrer cette saison et elle va parfaitement bien se poursuivre. Merci
bien,
d'avoir accepté
souhaite.
D'être
Merci
le premier invité de cette émission. Merci à tous les deux.
Merci.
À la semaine prochaine. Le retour, tiens, la rentrée aussi d'affaires suivantes. Philippe Godin, Dominique Rizet, c'est à vous.